monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Ekia Badou avec vous. Bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel du 1er août 2018 sur VOA Afrique. Voici les titres. Au Zimbabwe, la police tire sur les partisans de l'opposition qui crient à la fraude. Jean-Pierre Bemba de retour à Kinshasa. Opposants et sympathisants n'ont pas tardé à réagir. Au Mali, 18 candidats des 24 contestent le scrutin de dimanche dernier. Mystère en Centrafrique après la mort de 3 journalistes russes.
Les trois n'ont pas informé le ministère de la Communication de leur déplacement à l'intérieur du pays pour faire un reportage.
La Commission européenne a décidé d'allouer des dizaines de millions d'euros à l'Espagne pour faire face aux flux de migrants clandestins. Ne manquez pas dans 10 minutes la Minute Écho. Le FMI a accordé au Tchad 49 millions de dollars pour financer ses réformes économiques. Et dans la page sportive, Lopetegui a perdu son premier match à la tête du Real. Mais tout d'abord, le journal. On commence ce journal par cette nouvelle épidémie d'Ebola déclarée en République démocratique du Congo. Selon le ministre de la Santé, la nouvelle épidémie menace la région de Beni avec 26 cas de fièvre hémorragique, dont 20 décès. Sur le plan politique à Kinshasa, Jean-Pierre Bemba est de retour après 10 années d'absence dans son pays. L'opposant congolais atterrit dans la capitale après 10 ans passés en prison à la Cour pénale internationale. Bien qu'en liberté provisoire, le leader du mouvement de libération du Congo entend déposer sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain et se dit déterminé à remporter le scrutin. Retrouvons à Kinshasa Thierry Katumbi de Top Congo FM, notre station partenaire.
L'avion de Jean-Pierre Bemba s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili aux environs de 9h20 heure de Kinshasa. Mais le président du mouvement de libération du Congo, accueilli au pied de l'avion par sa famille et les cadres de son parti, a mis près d'une heure avant de sortir de l'aéroport où l'attendaient de nombreux militants et militantes de son parti. Juste le temps pour lui de les saluer, l'ancien vice-président de la RDC a été escorté par la police, provoquant la colère des militants et membres de son parti qui voulaient que leur leader marche à pied avec eux jusqu'au siège du MLC. La police a dû user des gaz lacrymogènes pour les disperser. Arriva ensuite l'étape du boulevard Triomphal où militants et sympathisants, encore plus nombreux, attendaient leur leader au siège provincial du MLC. Après quelques minutes de communion avec eux de la fenêtre de son bureau, Jean-Pierre Bemba a quitté le siège de son parti pour la résidence familiale, selon la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba, pour un hôtel de la place, selon le chef de la police ville de Kinshasa. On ne sait donc pas encore où le sénateur Bemba Gombo passera sa toute première nuit quinoise, 11 ans après son départ de la capitale de la RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En République centrafricaine, 3 journalistes russes ont été tués à environ 200 km de Bangui, la capitale. Les 3 hommes, reporters, caméramans et documentaristes, ont été retrouvés morts lundi soir à Sibut, un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. Scène de chaos aujourd'hui dans Harare, alors que le Zimbabwe attend toujours les résultats de la présidentielle. La police a tiré à balles réelles sur les manifestants de l'opposition qui entendaient un marché sur le siège de la commission électorale. On déplore au moins un mort. Nicolas Pinault fait le point.
Oui, c'est une journée de tension qui se termine dans le sens. Ce soir, l'armée est déployée dans Harare et le calme est revenu alors que les résultats de la présidentielle ont été reportés à demain par la commission électorale. Le siège de la ZEC, c'était l'objectif des partisans du principal parti d'opposition, le Mouvement pour le Changement Démocratique. Après l'annonce de la victoire à la majorité absolue de la ZANU-PF aux législatives, les partisans de l'opposant Nelson Chamisa dénoncent des fraudes et craignent que la victoire de leur candidat à la présidentielle, qu'ils considèrent acquise, ne leur soit volée. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé en novembre à Robert Mugabe par un coup de force de l'armée et de son parti, a lancé un appel au calme sur Twitter. Quant aux observateurs de l'Union européenne, ils dénoncent l'inégalité des chances entre les candidats aux élections générales et des intimidations d'électeurs. Ils s'inquiètent aussi de la lenteur dans la proclamation des résultats. Toutefois, les observateurs européens soulignent que le climat politique s'est amélioré au Zimbabwe.
Et ce soir, l'ambassade des États-Unis à Harare appelle l'armée zimbabwéenne à faire preuve de retenue. Washington se dit profondément inquiet des derniers développements dans le pays. Autre élection au Mali où 18 candidats sur 24 contestent le scrutin de dimanche dernier. Lors d'une conférence de presse à Bamako, ils ont dénoncé la corruption et l'achat des votes des électeurs, mais aussi l'utilisation frauduleuse de certaines cartes d'électeurs non retirées, le non-affichage de listes électorales devant certains bureaux. Kassim Traoré est le correspondant de VOA Afrique au Mali.
C'est dans une salle de conférence de la maison de la presse, pleine à craquer, que les 18 candidats dénoncent les irrégularités du scrutin et annoncent qu'ils rejettent les résultats du premier tour. Ils remettent en cause l'intégrité de la Cour constitutionnelle. Maître Mohamed Ali Bachili, porte-parole des candidats.
Une Cour constitutionnelle se doit de garder, de préserver sa neutralité, son impartialité. Alors une Cour qui empêche les plaideurs de recourir aux moyens que la loi leur donne. On doit la récuser, oui ou non? Donc, c'est pas des griefs fondés sur des sentiments, mais sur la réalité juridique de la position de la Cour.
Certes, les 18 candidats ont signé la déclaration commune, mais certains n'ont pas la même compréhension du texte. Par exemple, Alou Boubacar Diallo, candidat, ne rejette pas l'ensemble des résultats, mais il conteste la manière de travail de la commission de centralisation. Pour lui, le décompte des voix bureau de vote par bureau de vote serait la meilleure solution. Pour le moment, la capitale malienne attend les résultats provisoires qui doivent être proclamés par l'administration territoriale au plus tard le vendredi prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le maire du plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan, a été révoqué par le Conseil des ministres qui l'accuse de détournement en pleine bataille politique entre les deux principales formations de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire. Sidi Touré, le porte-parole du gouvernement, a accusé Noël Akossi Benjo de graves déviations dans le maniement des fonds communaux, de faux en écriture publique et de détournement de fonds portant sur plusieurs millions d'euros. Au Bénin, le président Patrice Talon a décidé d'abandonner pour une durée indéterminée un projet de réforme constitutionnelle qui devait être soumis au vote populaire. Il affirme que l'organisation d'un référendum coûterait trop cher et n'était pas une priorité. Au Nigeria, après la défection de deux gouverneurs, de dizaines de parlementaires et du président du Sénat, le gouverneur d'un État du Nord du Nigeria et un porte-parole du parti au pouvoir ont annoncé ce mercredi rejoindre l'opposition, marquant un nouveau coup dur à l'encontre du président Muhammadu Buhari. Au Sénégal, les sapeurs-pompiers ont annoncé ce mercredi que 40 personnes sont mortes noyées depuis deux mois à Dakar, dans des plages interdites à la baignade, mais qui connaissent une fréquentation accrue en cette période de chaleur estivale.
Mina Andreeva, porte-parole adjointe de la Commission européenne, a affirmé:
dans le reste du monde, la Commission européenne a décidé d'allouer des dizaines de millions d'euros à l'Espagne pour l'aider à gérer le flux continu de migrants arrivés clandestinement sur ses côtes depuis le Maroc. Yacouba Ouédraogo nous en dit plus.
Mina Andreeva, porte-parole adjointe de la Commission européenne, a affirmé que l'Union travaille à libérer les fonds, ajoutant toutefois qu'elle n'a aucun montant à communiquer. Dimanche dernier, le gouvernement espagnol a demandé à bénéficier d'une allocation de 30 millions d'euros du Fonds européen pour l'asile, la migration et l'intégration et du Fonds pour la sécurité. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a assuré le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, de son soutien et de la priorité accordée à ses demandes. M. Juncker a aussi demandé au commissaire aux migrations de se rendre dans les prochains jours en Espagne. La Grèce, elle, a bénéficié d'un financement de 31,1 millions d'euros pour la gestion des migrants à sa frontière avec la Turquie. Plus de 20 000 migrants sont arrivés en Espagne depuis janvier en provenance du Maroc pour la plupart. L'Union européenne dit avoir aussi prévu environ 55 millions d'euros pour renforcer les capacités d'intervention des gardes-côtes marocains et tunisiens. Elle s'est refusée à nommer les États membres qui n'ont pas versé l'intégralité de l'argent promis pour le Fonds pour l'Afrique. Toutefois, selon un état des versements en date du 23 juillet, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Italie et les Pays-Bas n'ont pas respecté leur engagement.
Par ailleurs, en Tunisie, un navire commercial ayant secouru 40 migrants, dont deux femmes enceintes, a accosté au port de Zarsis, dans le sud du pays, après plus de deux semaines d'attente. Parti de Libye à bord d'une embarcation pneumatique, ces migrants avaient été perdus en mer durant cinq jours avant d'être repérés par le navire Caroline III, envoyé par un centre de secours maltais. L'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture lance un appel de fonds de 120 millions millions de dollars en urgence pour faire face à des crises négligées menaçant 3,6 millions de personnes. En tête des pays souffrant de crises alimentaires oubliées dues aux sécheresses, aux inondations ou à de mauvaises saisons de récolte, l'Afghanistan, le Soudan et la Syrie. L'Afghanistan d'ailleurs organisera une élection présidentielle le 20 avril 2019 pour choisir le successeur d'Ashraf Ghani, élu en 2014, a annoncé ce mercredi la commission électorale indépendante. Au Danemark, une loi controversée sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public est entrée en vigueur ce mercredi. Toute personne ne portant pas un vêtement qui lui cache le visage en public risque désormais une amende. Pour ses détracteurs, cette loi constitue une violation de la liberté de choix des femmes. Tandis que les défenseurs, pour eux, il s'agit d'une mesure qui permettra une meilleure intégration des musulmans dans la société danoise. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est maintenant le moment de la Minute Éco qui vous est présentée aujourd'hui par Eric Manirakiza.
Le FMI a accordé au Tchad 49 millions de dollars pour financer les réformes économiques. C'est dans le cadre de l'accord de 2017 d'un financement de plus de 312 millions de dollars qui vise à rétablir la stabilité macroéconomique et à développer une croissance économique robuste et inclusive. Le FMI a encouragé N'Djamena à accentuer les réformes pour alléger le fardeau de la dette. L'Afrique du Sud veut accélérer les expropriations sans compensation de terres agricoles. Cyril Ramaphosa envisage à modifier la Constitution pour redistribuer des terres arables en faveur de la majorité noire et pauvre du pays. Son parti, l'ANC, va introduire une proposition d'amendement à la Constitution qui décrit explicitement les conditions d'expropriation des terres sans dédommagement. Le président Ramaphosa pense promouvoir la réparation, faire progresser le développement économique et accroître la production agricole et la sécurité alimentaire. Les fermiers blancs détiennent toujours une grande partie des terres les plus productives d'Afrique du Sud et contrôlent 73% des terres arables. Le président américain Donald Trump envisage désormais une taxe de 25% sur 200 milliards de biens chinois importés contre 10% évoqués jusque-là. Washington accuse Pékin de pratiques déloyales dans leur bras de fer commercial. L'administration Trump a annoncé le 10 juillet une nouvelle liste de produits chinois visés.
C'est le moment à présent de la page sportive qui nous est présentée aujourd'hui par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
Les débuts des épreuves des championnats d'Afrique d'athlétisme a été reportés.
Oui, les épreuves étaient prévues entre aujourd'hui et dimanche au Nigeria, mais plusieurs dizaines de partisans ont eu du mal à rejoindre la capitale de l'État du Delta. Le manque de vol des compagnies aériennes expliquerait le retard accusé par les délégations. La Confédération africaine d'athlétisme a alors été contrainte de chambouler son programme. Toutes les compétitions prévues dans la matinée ont été annulées. Les épreuves des 100 mètres hommes et dames ont été décalées jusque dans la soirée, de même que la finale des 10 000 mètres hommes.
Football, les joueurs du Zamalek mis à l'amende après un match nul.
Le président du Zamalek, Mortada Mansour, a fait fort dès la première journée de la nouvelle saison en Égypte. Mécontent que son club débute par un match nul face à Petrojet 0-0, Mansour a infligé une amende de 100 000 livres égyptiennes, environ 4 800 euros, à ses joueurs. Il dit justifier cette amende par les occasions faciles qui ont été manquées.
Lopetegui a perdu son premier match à la tête du Real.
Le nouvel entraîneur du Real Madrid a démarré son mandat par une défaite en amical 2-1 hier contre Manchester United, qui finit sur une bonne note, une tournée nord-américaine jusqu'ici décevante. Le Real, en pleine recomposition depuis le départ de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo, ne pouvait pas compter sur tous ses internationaux. Gareth Bale et Karim Benzema étaient en revanche bien là et le Français a réduit la marque juste avant la pause. Après les deux buts inscrits par Alexis Sanchez à la 18e et Ander Herrera à la 27e pour les Red Devils, privés de 12 cas dont Paul Pogba et Romelu Lukaku. Le Real entamera la Liga le 19 août face à Retafe.
Lucas Digne a signé pour 5 ans à Everton.
Et oui, le défenseur international français a signé pour un montant estimé à 21 millions d'euros. Digne, sélectionné à 21 reprises et qui était réserviste pour le Mondial 2018, avait rejoint Barcelone en 2016 après avoir porté successivement les maillots de Lille, du Paris Saint-Germain et de l'AS Rome. Il ne s'est jamais imposé comme titulaire à part entière dans l'équipe catalane où il n'a disputé que 29 matchs de championnat en deux saisons.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En Centrafrique, trois journalistes russes ont été tués dans la nuit de lundi à mardi près de Sibut, dans le centre du pays, par un groupe armé non identifié. Leur conducteur a pu s'échapper avec le véhicule criblé de balles. En attendant les résultats de l'enquête, Félix Yepassi-Zambrou a joint Joseph Bendoumi, le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, revient sur les circonstances de ces tueries.
Quatre personnes sont parties de Bangui l'après-midi, le soir, pour se rendre dans la direction de Dekoa et Casabadoro. Et donc, dans le voyage, il y avait un chauffeur de nationalité centrafricaine et trois expatriés. Au cours du voyage, ils sont arrivés à Sibut, 186 km. Ils ont été stoppés par les contrôles des forces armées centrafricaines qui leur ont demandé de ne pas continuer de nuit, la zone étant assez dangereuse. Ils ont suffisamment insisté pour poursuivre leur route. Les forces centrafricaines les ont laissés donc continuer. Mais avant d'arriver à Dikwa, ils sont tombés sur une embuscade tard la nuit et il se trouve que les trois expatriés ont été tués. Et leur conducteur, ayant vu qu'on s'acharnait sur les autres, a dû, pour avoir la vie sauve, démarrer le véhicule. Et ce véhicule était criblé de balles, mais il s'en est tiré.
Vous dites expatrié, donc pour l'heure, on ne connaît pas l'identité exacte de ces trois hommes.
Ce que je peux vous dire, c'est que la Russie n'a pas déclaré avoir perdu trois personnes. Et les informations que nous avons, la Russie dit qu'elle n'a pas des hommes dans l'endroit où les faits se sont passés et qu'elle n'a perdu personne. La seconde chose, c'est que pour ce voyage, ils avaient plutôt une autorisation de presse signée par la MINUSCA. Donc les intéressés ne se sont même pas présentés auprès du contingent de Russie, ni à l'ambassade ou la représentation de Russie qui se trouve à Bangui. Les trois n'ont pas informé le ministère de la Communication de leur déplacement à l'intérieur du pays pour faire un reportage.
Dit-on, M. le Président, que ces trois hommes devraient enquêter sur la présence des militaires russes en Centrafrique. Est-ce votre avis?
Est-ce que pour enquêter sur la présence russe en République centrafricaine, on a besoin de faire une mission de nuit? Ce qu'on sait, c'est que le Conseil de sécurité a donné l'autorisation que la Russie donne des armes à la République centrafricaine officiellement. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont l'autorisation d'instruire des forces armées centrafricaines. Ils ont déjà formé deux bataillons. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont basés à Bérengo publiquement. Ils circulent des jours et nous ne voyons pas comment des personnes qui auraient eu la nationalité russe seraient venues encore pour surveiller une mission russe à l'intérieur du pays. Je pense que l'enquête peut-être le révélera, mais ce n'est pas bien.
Joseph Bendoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Jacques Aristide avec vous, c'est un Washington Forum spécial Mali que VOA Afrique vous propose ce jeudi à partir du studio de notre station partenaire Africable Télévision à Bamako. Sur place, les invités pour faire le point sur l'élection présidentielle, alors que les Maliens attendent toujours les résultats ce mercredi. Il s'agit d'un scrutin qualifié de crucial. Pensez-vous que les Maliens accepteront l'issue, quelle qu'elle soit? D'après vous, quels sont les grands chantiers du prochain président, notamment sur les plans de la sécurité, de l'emploi et de la relance économique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Au Congo-Brazzaville, la Commission nationale de lutte contre la corruption a indexé hier, lors de la publication de son rapport, le ministre des Hydrocarbures dans le détournement de fonds destinés à la construction du siège de l'organisation des pays africains producteurs de pétrole. Le président de cette commission, Lamir Nguélé, a appelé la justice à ouvrir des poursuites judiciaires à ce sujet. Le reportage à Brazzaville de notre correspondant Arsène Séverin.
La commission de lutte contre la corruption que dirige un ancien ministre n'est pas allée par quatre chemins pour dénoncer le détournement de quelques 700 millions de francs CFA destinés à la construction à Brazzaville du siège de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole. Et l'actuel ministre des hydrocarbures, Jean-Marc Tister-Tikaya, a été épinglé. Le président de la commission nationale de lutte contre la corruption, Lamine Nguélé.
Le ministre a été le donneur d'ordre. Cela veut dire que le ministre est coupable au même titre que le directeur de cabinet, au même titre que le conseiller financier. Maintenant, ces gens-là, ils ne sont pas jugés. Notre rôle, ce n'est pas de juger. Nous préparons le travail en amont, nous transmettons à M. le procureur de la République, nous sommes dessaisis du dossier. Là commence le travail de la justice. Des fonds de la CREF, des fonds réservés au paiement des pensions des fonctionnaires. Le montant s'élève à environ 9 milliards. Nous avons bouclé ce dossier, il est chez le procureur de la République.
Mais depuis que la commission publique ses rapports, le parquet de Brazzaville n'a pas encore ouvertement lancé de poursuites judiciaires. Rock Eloge Nzobo, coordonnateur du Cercle des droits de l'homme et le développement.
Le procureur a l'obligation d'ouvrir une information judiciaire. S'il ne le fait pas, évidemment, ça voudra dire que cette commission, comme toutes les autres commissions, comme celle des droits de l'homme, par exemple, ne sert à rien, juste pour la forme.
Pour l'analyste économique Augustin Benazo, la corruption est endémique au Congo. Elle touche tous les secteurs de la vie nationale et la justice devrait sévir.
L'effectivité de la dépense au Congo n'est que de 30%. Voilà, c'est un problème. Voilà. Donc ça montre qu'il y a des faiblesses. Ça a un impact sur l'évolution des politiques publiques au niveau de notre pays. Et donc nous pensons que la commission a travaillé, c'est bien. Nous les félicitons, les remercions, mais ce n'est pas suffisant.
Au Parti congolais du travail, le parti présidentiel, la préoccupation sur la corruption est palpable, mais aucune action n'est engagée. Serge-Michel Ozoku, le porte-parole du PCT, dit qu'il n'y a pas de preuves pour s'attaquer aux membres de son parti.
Nous avons fait des déclarations qui sont peut-être des déclarations, mais qui sont des professions de foi où nous avons dit tous ceux qui sont coupables, eh bien, ils devront répondre de leurs actes, mais il y a la justice qui est là pour connaître de ces faits et dire le droit.
En négociation avec le Congo, le FMI avait clairement appelé les autorités à donner des signaux forts dans la lutte contre la corruption et la pratique de la bonne gouvernance. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Raissa Girondin, en votre compagnie, à 5 mois de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, l'opposition s'active. Jean-Pierre Bemba est arrivé aujourd'hui à Kinshasa. Moïse Katumbi annonce son retour vendredi, alors que le camp présidentiel est toujours à la recherche d'un dauphin de Joseph Kabila qui ne peut se représenter pour un troisième mandat. Est-ce que le retour de Jean-Pierre Bemba peut donner une autre tournure au jeu politique actuel ? La candidature unique de l'opposition pour la présidentielle est-elle possible? Réagissez en direct à 18h en temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook, nous vous rappellerons.
Le 5e sommet réunissant les Young African Leaders, communément appelé YALI, s'achève ce jeudi à Washington. Ce programme lancé en 2010 par le président de l'époque, Barack Obama, a pour but de détecter les jeunes talents du continent africain et de les aider à se perfectionner chacun dans son domaine. 37 000 candidatures cette année, 700 retenues. Voici le témoignage d'Inès Kouassi que j'ai recueilli hier. Elle a créé Terre à Terre Bénin pour alerter la population des problèmes écologiques dans son pays et dans le reste du monde.
Terre à Terre Bénin était un besoin dans ma communauté parce que je viens d'un pays où les motos sont responsables de 89% des 83 tonnes de monoxyde de carbone émis par jour dans la principale ville, la capitale économique, Cotonou. Je viens d'un pays où les femmes n'ont pas un accès équitable aux terres, les populations n'ont pas toujours de l'eau potable. Je viens d'un pays où, malheureusement, beaucoup de paysans pensent que le changement climatique est juste un mystère, que c'est parfois pour des raisons spirituelles. Et ce qui a été ma plus grande motivation pour créer Terre à Terre Bénin il y a un an maintenant, ça a été un drame. Au cours du premier trimestre de 2017, j'ai perdu deux de mes voisines, deux braves dames, belles, intelligentes, qui avaient un emploi stable, qui avaient des rêves et surtout des enfants de la famille. Elles sont décédées du cancer du sein et je me suis sentie vraiment comme désarmée. Et puis, je me suis dit, non, tu dois te reprendre et tu dois surtout faire quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi, a été terre à terre Bénin. Parce que j'avais 13 années d'expérience dans les médias, un master en environnement, il fallait faire quelque chose. Terre à terre Bénin, la première start-up en communication environnementale, est donc née pour mieux informer ma communauté. Ma communauté ne sait pas qu'il n'est pas bon, par exemple, de consommer les soupes de poisson frais. Parce que chez nous, moi, je viens, par exemple, de la région de Grand Popo, où nous adorons, ce sont des pêcheurs qui sont par là-bas. Ce n'est pas bon parce que les études du professeur Pazou ont démontré que le fleuve Ouémé, qui est le principal fleuve au Bénin et qui prend sa source au nord du Bénin, est pollué par les pesticides utilisés dans la culture du coton. Et ce fleuve-là dessert tout le pays. Alors, quand les pêcheurs ils font leur pêche, ils ramènent le poisson. Elle a fait des tests et elle s'est rendue compte que tous les poissons, les crustacés que nous pêchons au Bénin contiennent des résidus de pesticides. Les recommandations de cette étude sont notamment il vaut mieux frire le poisson. Là, on réduit la présence de ces pesticides de 60% plutôt que de consommer des soupes de poisson frais parce que là, c'est 100%. Si vous ne pouvez pas frire, il faut fumer. Mais là, vous réduisez juste de 40%. L'idéal, c'est de frire avant de manger. Au Bénin, beaucoup de personnes ne savent pas ça. Mon rôle, c'est de les amener à connaître ce genre d'informations parce que la science n'est pas toujours accessible aux populations. Mais ayant de l'expérience dans les médias et sachant aussi ce que c'est que l'environnement par rapport à la science, je suis en mesure de ramener de façon terre à terre toutes ces informations afin que les populations puissent faire leur propre choix.
Inès Kouassi, une participante au YALI 2018 que vous retrouverez dans l'émission « Vous et nous ».
Nos infos sur voaafrique.com.
C'est aujourd'hui qu'une ONG texane aurait dû publier légalement en ligne des informations en téléchargement gratuit permettant à n'importe qui d'imprimer une arme 3D en plastique. Mais hier, la justice américaine a temporairement suspendu la mise en ligne des plans numériques. Un tribunal fédéral de Seattle a fait droit à la demande des procureurs de 8 États américains et de la capitale fédérale Washington qui sont contre l'accès à ces plans. Les détails avec Arzuma Compaoré.
L'interdiction du juge Robert Lasnik empêche pour l'instant le public d'utiliser une imprimante 3D pour fabriquer leurs propres armes à la maison. La décision bloque l'accord intervenu entre l'administration Trump le mois dernier et cet homme, Cody Wilson, qui en 2013 avait posté des plans en ligne pour un pistolet imprimable.
Pour moi, c'est une preuve d'égalité radicale. À tout ce que les forces de l'ordre et les militaires peuvent avoir, je crois qu'un individu doit pouvoir se le procurer.
Mais tout le monde n'est pas d'accord. Plus tôt cette semaine, 8 États et Washington DC ont déposé une plainte contre l'administration Trump, affirmant que les armes étaient trop dangereuses.
Aucune vérification d'antécédent, aucune période d'attente, aucun numéro de série. Certains de ces pistolets imprimés en 3D sont fabriqués avec des matériaux qui ne déclenchent pas les détecteurs de métaux.
C'est bientôt dans une salle de ciné près de chez vous, dans une école de votre quartier, dans un stade de sport ou n'importe quel lieu public que vous les retrouverez. Ces armes fantômes sont la nouvelle vague de violence armée aux États-Unis.
Mardi, même le président Donald Trump, un partisan du droit de porter des armes à feu, a exprimé des réserves au sujet des armes à feu imprimables, disant dans un tweet qu'il avait parlé à la National Rifle Association de la vente d'armes à feu imprimables et que cela n'a pas beaucoup de sens. Mais pour ces derniers, qui constituent le plus grand groupe américain de lobbying en faveur des armes à feu, il faut s'opposer à presque toutes les restrictions sur de telles armes. Pour son vice-président, Wayne Lapierre, les armes imprimables fournissent liberté et innovation. Wilson Cody affirme que la première fois qu'il a publié ses plans, plus d'un million ont été téléchargés avant qu'il ne soit forcé de les retirer. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, encore plus de gens connaissent les armes 3D et ils ont la technologie d'impression pour les fabriquer. Rappelons que la loi fédérale américaine sur les armes à feu indétectables de 1988 interdit la présence dans les lieux publics tels que les aéroports de canons ne contenant pas assez de métaux détectables. La loi n'exige cependant pas que les parties métalliques soient non amovibles, ce qui permet à certains fabricants de pistolets imprimés en plastique 3D de prendre avantage de cette faille en créant des inserts métalliques qui ne sont pas essentiels au fonctionnement de l'arme.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Dan Crawford. Ekia Badou à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programmes en notre compagnie.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.